VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. On est jeudi 2 novembre 2017 au sommaire. Incertitude sur la tenue du second tour au Libéria, la Cour suprême a reporté à demain son audience sur le recours du parti au pouvoir. Ce 2 novembre est la journée pour la fin de l'impunité contre les journalistes. Et en Gambie, les victimes présumées de Yahya Jammeh ne veulent pas se faire oublier.
Yahya Jammeh a fait assassiner mon père le 16 décembre 2004 en route. Ils l'ont attaqué avec des voitures et ils ont commencé à tirer.
Interview à suivre dans la partie magazine. Le président sud-soudanais Salva Kiir accuse son voisin soudanais d'alimenter la guerre civile qui déchire son pays. Ici aux États-Unis, la polémique après l'attentat de New York qui a fait 8 morts. Le président Trump accuse les démocrates d'être laxistes qui à leur tour dénoncent une récupération politique. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les incertitudes persistent sur la tenue le 7 novembre du second tour de la présidentielle au Libéria. La Cour suprême a reporté à demain vendredi l'audience pour statuer sur des allégations d'irrégularité au du premier tour. Le point avec Eric Manirakis.
Cette audience devait se tenir aujourd'hui, mais la Cour suprême l'a renvoyée à demain vendredi pour des raisons de procédure. Le Parti de la Liberté de Charles Bromskin conteste des irrégularités, de fraudes massives et systématiques. Le vice-président sortant Joseph Boakai a également soutenu cette plainte. La commission électorale devra s'expliquer. En attendant, la Cour suprême a suspendu toutes les actions liées au second tour du 7 novembre. Pour tenter de détendre l'atmosphère, la présidente Ellen Johnson-Sirleaf a réuni hier à Monrovia le Guinéen Alpha Condé et le Togolais Fornia Simbé, respectivement président en exercice de l'Union africaine de la CDAO, ainsi que les deux rivaux, Joe Joéa et Joseph Boakai. Après cette rencontre, l'ex-star du football a rassuré ses partisans et leur a demandé de garder le calme, tout en rappelant que le combat démocratique continue.
Des éléments de l'embuscade ayant causé la mort de 4 militaires américains au Niger contredisent la version officielle, selon en tout cas un récit détaillé publié ce jeudi par la chaîne américaine ABC. L'opération les 3 et 4 octobre de l'équipe américano-nigérienne, qui a été présentée par le chef d'état-major Joe Dunford comme une patrouille de reconnaissance, était en fait une mission destinée à capturer Mort-ou-Vif, un dirigeant djihadiste identifié comme Dondou Chefou, selon toujours la chaîne ABC. Toujours au Niger, des étudiants ont déposé une plainte contre X après la mort d'un des leurs lors d'une manifestation réprimée par les forces de sécurité en avril dernier. Il revient à la justice de faire véritablement son travail et de créer le plus tôt possible les conditions pour traquer les auteurs, les complices de la mort de l'étudiant, a déclaré l'un des plaignants. Le rapport d'une commission d'enquête indépendante avait conclu à la mi-août que Mala Bagale avait été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite à Khartoum, a accusé le Soudan d'être une source d'armes utilisées dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan, a déclaré Salva Kiir lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais Omar El-Béchir. Salva Kiir effectuait sa 3e visite au Soudan depuis la sécession de son pays en 2011. Cette fois, le but est d'aplanir les nombreux différends entre les deux pays. Khartoum soutient que son voisin aide des insurgés dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. De son côté, Djouba accuse le Soudan de soutenir les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar, exilé en Afrique du Sud. Le chef rebelle Machar est également venu à Khartoum cette année pour des soins médicaux. Depuis le début de la guerre en 2013, selon l'ONU, plus de 450 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan. Khartoum estime leur nombre à 1,3 million.
L'un des policiers tunisiens poignardé par un extrémiste devant le Parlement à Tunis a finalement succombé à ses blessures. L'assaillant avait tenté de frapper un autre policier, l'atteignant légèrement avant d'être interpellé. Ce jeune homme titulaire d'une maîtrise en informatique avait l'intention de rejoindre des groupes terroristes en Libye, selon le porte-parole du parquet de Tunis. Le frère de l'auteur de l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts en mai dernier, ne sera pas remis à la police britannique qui demande son extradition. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le groupe armé qui détient l'accusé à Tripoli. Londres affirme avoir recueilli suffisamment de preuves pour demander et obtenir un mandat d'arrêt contre le frère de l'agresseur Hachem Abedi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump réclame la peine de mort pour Saifullo Saipov, accusé d'avoir tué 8 personnes en lançant un véhicule sur une piste cyclable mardi à New York. L'immigré ouzbek a été inculpé hier soir pour cette attaque, qu'il a dit être inspirée par le groupe État islamique et avoir préparé depuis un an. Les précisions de Jacques Aristide.
Saifullo Saipov a fait une brève apparition en chaise roulante hier soir devant une juridiction fédérale de Manhattan. L'homme de 29 ans a été inculpé pour avoir fourni un soutien matériel et des ressources à un groupe terroriste étranger, ainsi que pour violence et destruction de véhicules ayant causé la mort de 8 personnes, dont 5 touristes argentins. Il encourt la réclusion à perpétuité pour le premier chef d'accusation et selon les cas de figure, et si le gouvernement le demande, la peine de mort pour le second, d'après le procureur de Manhattan par intérim, Jun Kim. Des chefs d'accusation supplémentaires pourraient être rajoutés ultérieurement. Dans un tweet ce jeudi, le président Trump écrit que le terroriste de New York était content car il a demandé à prendre le drapeau de l'EI dans sa chambre d'hôpital. Il mérite la peine de mort, ajoute-t-il. Saipov a indiqué aux enquêteurs avoir fait un essai de véhicule le 22 octobre pour apprendre à faire tourner sa camionnette. Il a déclaré se sentir à l'aise avec ce qu'il a fait après avoir été particulièrement motivé par une vidéo d'Abu Barka al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Par ailleurs, le FBI affirme avoir localisé un autre ouzbek du nom de Mukhamadzwar Kadyrov, l'un des deux individus recherchés avec qui Saifullo Saipov est soupçonné d'avoir été en contact. L'attaque de mardi est la plus meurtrière à New York depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center qui ont fait plus de 2600 morts.
Le parquet espagnol a demandé l'émission d'un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont et 4 de ses ministres après leur refus de comparaître devant un juge d'instruction madrilène. Le point avec Solange Nyamoulis.
Selon le parquet, la juge doit encore décider si elle accepte de délivrer ce mandat qui s'adresserait aux autorités belges puisque les 5 se trouvent en Belgique. Carles Puigdemont et 14 conseillers du gouvernement destitués de Catalogne étaient cités à comparaître dans une enquête pour sédition, rébellion et des délits passibles d'un maximum de 30 ans de prison. Mais M. Puigdemont et 4 ministres ne se sont pas présentés. Le dirigeant indépendantiste dénonce un procès politique et accuse le parquet espagnol de nourrir un désir de vengeance. Selon son avocat belge Paul Becaert, il serait disposé à répondre aux questions de la justice espagnole, mais depuis Bruxelles. Les 9 autres membres de son gouvernement destitué ont comparu jeudi matin. Le parquet a reculé leur placement en détention provisoire, sauf un pour lequel il a demandé une libération sous caution de 50 000 euros.
Des centaines de Palestiniens ont exprimé leur colère à Ramallah, en Cisjordanie occupée, à l'occasion du centenaire de la déclaration de Balfour, document qui est à la base de la création d'Israël. Ces manifestants ont marché jusqu'à une représentation diplomatique britannique en brandissant des drapeaux et des banderoles hostiles à la promesse de Balfour. L'héritage de Balfour, c'est l'apartheid, pouvait-on lire sur l'une d'elles. Le groupe État islamique a exécuté 741 civils au cours de la bataille de Mossoul, deuxième ville d'Irak, reprise en juillet par l'armée irakienne à l'issue de 9 mois de combat, ce qu'a indiqué l'ONU qui encourage Bagdad à saisir la Cour pénale internationale. Un total de 2521 civils ont trouvé la mort, la plupart dans des attaques des djihadistes au cours de cette offensive, selon un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La Russie dénonce comme superficiel et amateur le rapport de l'ONU désignant le régime syrien allié de Moscou comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur Khan Cheyoun en avril dernier. Selon Mikhail Ulyanov du ministère russe des Affaires étrangères, la mission a mené son enquête à distance. Rien que cela, pour lui, c'est un scandale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Jacques Aristide qui nous présente maintenant la Minute Éco.
Le Fonds monétaire international pourrait débloquer avant la fin de l'année une seconde tranche de prêt d'environ 100 millions de dollars en faveur du Gabon. En juin, le FMI a approuvé un crédit sur 3 ans de 642 millions de dollars avec un premier décaissement immédiat de 98,8 millions de dollars. Une équipe du FMI a bouclé hier une visite de 2 semaines à Libreville. Le conseil d'administration de l'institution devrait examiner le rapport de cette équipe à la mi-décembre et décider alors de débloquer les fonds. Riche principalement de son pétrole et de sa forêt, le Gabon traverse depuis 2015 une période économique difficile, aggravée par la baisse des prix du brut, se traduisant par du chômage, des grèves, des entreprises qui tournent au ralenti ou mettent la clé sous la porte. En Tanzanie, le directeur général et le directeur financier d'Acacia Mining ont démissionné ce jeudi en marge des négociations pour clore un litige avec le gouvernement tanzanien. Les autorités ont infligé à Acacia, la filiale locale du premier producteur d'or mondial, Barrick Gold, un redressement fiscal record de 190 milliards de dollars. Le fabricant norvégien d'engrais Yara International annonce un projet d'usine au coût de 2 milliards de dollars au Mozambique. Le groupe pourrait faire appel à des partenaires financiers, d'après son directeur général, qui veut faire du continent africain un important marché des engrais. Yara, qui dispose de filiales en Côte d'Ivoire et en Tanzanie, est confrontée à un recul de la demande en Europe et aux États-Unis.
Et tout de suite, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par le Tour du Faso en cyclisme.
Et oui, la 7e étape entre Benfora et Bobo-Dioulasso Lasso est la première victoire burkinabé. En l'occurrence, Abdelaziz Nikema qui passe en tête la ligne d'arrivée. C'est l'érythréen Simon Moussier qui endosse le maillot jaune. À suivre demain la 8e étape entre Bobo-Dioulasso Lasso et Dédougou.
Coup dur pour Fawzi Ghoulam.
Le latéral algérien de Naples, victime d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. Il s'était blessé après une demi-heure de jeu hier lors de la défaite de son équipe face à Manchester City. 4-2 en Ligue des Champions. C'est un très gros coup dur pour Naples, actuellement leader du championnat d'Italie.
Important dispositif de sécurité pour la finale retour de la Ligue africaine des champions.
10 000 policiers mobilisés, gardes rapprochés pour les invités de marque, cordon sécuritaire pour protéger joueurs et supporters du club égyptien d'Al Ahly. Selon la presse marocaine, les autorités vont mobiliser les gros moyens pour ce match retour de la Ligue africaine des champions. 50 000 supporters sont attendus à Casablanca samedi. On rappelle qu'il y a eu match nul, 1-0 entre Al Ahly et le WAC de Casablanca au match aller.
Fin de la 4e journée de la Ligue des champions hier soir.
Dans le groupe E, après la gifle infligée à Maribor par Liverpool, les Reds ont battu les Slovènes 3-0 à Anfield Road. Séville prend la 2e place grâce à sa victoire sur le CSKA Moscou 2-1. Dans le groupe F, je le disais, au terme d'une nouvelle confrontation de qualité, Manchester City s'est imposé à Naples 4-2 et se qualifie pour les 8e de finale. La victoire du Shakhtar Donetsk face à Feyenoord éloigne un peu plus les Napolitains de la qualification. Dans le groupe G, Monaco a concédé le nul sur la pelouse de Besiktas. Et puis la belle victoire 3-1 de Porto contre Leipzig. Enfin, dans le groupe H, le choc en Angleterre entre les deux leaders Tottenham et le Real Madrid a tourné à l'avantage des Anglais qui s'imposent 3-1 et assurent leur présence en 8e de finale. Dortmund n'a pas réussi à battre Nicosie à domicile. Score final, 1-0.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Ça ne va pas bien à Cleveland en ce début de saison. 4e défaite consécutive face à Indiana, 124-107. Et sur leur parquet, les Celtics de Boston signent une 6e victoire en écrasant Sacramento, 113-86, 22 points de Kyrie Irving. Et puis le Magic Orlando, qui n'a plus disputé les playoffs depuis 2012, a conforté sa 2e place en s'imposant à Memphis, 101-99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Réunis derrière le slogan « Gambia Justice Must Prevail », une association pour les victimes de la dictature de l'ancien président a vu le jour. Le comité pour les victimes des atrocités de Yahya Jammeh souhaite aujourd'hui mettre la pression sur le nouveau gouvernement d'Adama Barrow pour obtenir justice. Baba Haïdara est militant des droits de l'homme. Il est également le fils du journaliste gambien Dede Haïdara, assassiné en 2004. Il est joint à Dakar par Arzuma Compaoré.
Yahya Jammeh a fait assassiner mon père le 16 décembre 2004 en route. Ils l'ont attaqué avec des voitures et ils ont commencé à tirer. C'était une sorte d'exécution. On a créé l'association ça fait quelques mois. On a eu des réunions avec un monsieur qui s'appelle Reed Brody, celui qui a aidé les victimes de Hissène Habré à l'amener en justice.
Qu'est-ce que vous espérez exactement que cette association soit en mesure d'accomplir?
C'est simple, d'amener Jammeh en justice, ce qui va être vraiment difficile.
Et pourquoi cela?
On ne peut pas faire le procès en Gambie parce que pour le moment, il y a toujours des sympathisants. Il y a même toujours des soldats, la plupart c'était ces hommes. La deuxième raison, c'est qu'on doit se préparer. On doit se préparer pour amener plus de preuves tangibles pour les avocats qui vont représenter toutes ces victimes-là le jour où on amènera Yahya Jammeh au tribunal. Et il y a autre aussi qui est aussi important, c'est comment faire sortir Yahya Jammeh de Guinée équatoriale où il se refuge maintenant chez les Obiang.
Et qu'est-ce que l'association espère maintenant du nouveau gouvernement avec Adama Barrow à sa tête?
Premièrement, on espère une reconnaissance. Reconnaissance parce que jusqu'à présent, il n'a pas trop parlé de l'association. C'est seulement ses ministres qui sont venus faire des photos avec les victimes. Il nous reconnaît. Ça peut même encourager les autres de venir nous voir. On a enregistré 400 victimes déjà. Et on attend plus. Le problème, c'est que il y a beaucoup de victimes, ils ont honte de venir nous dire leur histoire. Alors, ce qu'on essaie de faire toujours, c'est leur motiver pour venir nous joindre comme victimes. Parce que on a toujours besoin de plus pour que demain, quand on commencera à mettre en place le procès, d'avoir plus de matériel contre le dictateur, l'ex-dictateur.
C'était l'activiste gambien Baba Haïdara, fils du journaliste Dede Haïdara, assassiné en 2004.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, analyse sur le dossier G5 Sahel. Lundi, Washington a annoncé l'octroi d'une aide bilatérale de 60 millions de dollars à cette force antiterroriste africaine. Mais les États-Unis refusent toujours d'accéder à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des 5 pays du Sahel, de la France et d'une majorité du Conseil de sécurité d'autoriser un soutien de l'ONU. Y a-t-il une inflexion dans la position américaine? Comment les États africains peuvent-ils venir à bout de la menace terroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
En République démocratique du Congo, une personne sur cinq dans la province du Tanganyika, soit plus d'un demi-million de personnes, ont fui leur maison à cause des violences au cours des 15 derniers mois. La majorité des familles sont hébergées dans les zones de Kalemi et Nyunzu. 80% des déplacés n'ont pas accès à l'eau potable et les conditions humanitaires se dégradent à tel point que l'ONU a placé la RDC en urgence de niveau 3, le maximum au même titre que l'Irak, la Syrie et le Yémen. Claire Morin-Jubourg a joint à Kalemi la chef de mission du Norwegian Refugee. Il s'appelle Ulrika Blom.
La situation humanitaire dans la province de Tanganyika est vraiment très compliquée et très difficile. Et il n'y a pas suffisamment de support pour une réponse humanitaire dans cette province. Nous avons visité les sites de déplacés au Kalemi qui montrent une situation vraiment très précaire en relation avec les abris. Le petit site en paille, il y a un grand risque d'incendie. Il n'y a pas de l'eau potable suffisamment, pourtant il y a de grands risques de maladie. Même avec des latrines, ils ne sont pas suffisants. Je vis aussi beaucoup des enfants qui ne pouvaient pas aller dans l'école. La communauté humanitaire a besoin de beaucoup plus de capacités pour répondre à cette crise.
Quelles sont les premières urgences pour vous?
Pour moi, c'est vraiment ça qui va sauver des vies, qui va diminuer des maladies. Abri est très important. Les gens, ils ont besoin de les bâches, par exemple. Ils ne sont pas couverts quand il y a des pluies. Ils ne vont pas être suffisamment protégés et les gens peuvent mourir et il y a beaucoup de monde qui a peur de ça.
Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place avec le NRC?
NRC est une des organisations qui travaillent dans l'urgence et au Congo. On travaille déjà au nord et au sud Kivu il y a beaucoup d'années. Et cette année, on a commencé à Kasaï Central, à Kananga, pour une réponse d'urgence mobile. Et c'est ça qui est aussi notre ambition maintenant pour Tanganyika. Comme il n'y a pas suffisamment de ressources, nous avons amené une équipe mobile ici pour une réponse de non-food items pour les déplacer et possibles retourner. Nous avons maintenant déclaré pour Congo le plus haut niveau d'urgence dans le monde. C'est le même niveau qu'Irak, Yémen et Syrie. Pourtant, je pense que je ne peux pas voir jusqu'à maintenant qu'il y a quelques changements dans la terrain ici. Et je pense que c'est très important maintenant qu'on prenne ça sérieux et on mette en place des capacités et des fonds pour une réponse adéquate.
C'était Ulrika Blom, chef de mission du Norwegian Refugee Council.
À votre avis sur VOA Afrique? Donald Trump a annoncé mercredi vouloir mettre fin à la loterie d'attribution des cartes vertes qui donne droit de s'installer aux États-Unis, l'auteur de l'attentat meurtrier à New York ayant bénéficié de ce système. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. Je suis Anastasie Kudiesh et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h temps universel sur VOA Afrique pour À votre avis.
Voilà, au Cameroun, la réhabilitation des jeunes aveugles connaît un succès remarquable grâce à un homme, Coco Bertin. Lui-même malvoyant, il a mis sur pied en 1988 le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Aujourd'hui, cette organisation non gouvernementale gagne en crédibilité, notamment grâce à son école primaire bilingue inclusive fonctionnelle depuis 2003, qui accueille les enfants avec des besoins spéciaux. Notre correspondant à Yaoundé s'y est rendu. Reportage Emmanuel Jultap.
À l'école primaire bilingue inclusive Lubraille, la ponctualité est de rigueur. 7h30 marque le début effectif des cours. Coco Bertin ne déroge pas à la règle. Handicapé visuel, il est le promoteur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Coco nous conduit dans une salle de classe dite spécialisée.
Ici, c'est rien que les enfants handicapés. On les accueille d'abord ici. Et c'est après maintenant qu'on les amène dans les salles de classe. Après qu'on leur ait donné une formation pour qu'ils soient capables de suivre le cours.
À l'intérieur, 19 élèves. L'ambiance est studieuse, sous la conduite de 3 enseignantes. 2 d'entre elles sont non-voyantes et l'autre est malvoyante. Blandine, Racheté et Esther éduquent néanmoins les élèves avec passion.
Blandine Mbappé, enseignante spécialisée. Là, nous voulons commencer par l'écriture de la date et de leur nom. Tous n'ont pas le même niveau.
Je suis Madame Racheté. Gisèle, ils font le braille. Après l'alphabet, on fait les syllabes, les mathématiques.
Mademoiselle Mbappé, Esther.
Au moment où on aime ce qu'on fait, on éprouve du plaisir à le faire.
L'effectif 2017 de l'école primaire bilingue inclusive est de 250 élèves. À l'ouverture de l'établissement en 2003, l'école n'avait que 16 élèves. Certains parents envoient même leurs enfants valides y suivre des cours. Et depuis quelques années, des candidats spéciaux de l'école sont présentés aux examens officiels. À l'instar de Marcel Odile, elle a perdu la vue à l'âge de 8 ans et frappe aux portes du cycle secondaire en mai prochain.
J'avais arrêté au cours moyenne 2, j'avais 9 ans. Je souhaitais vraiment étudier. Je suis restée très longtemps à la maison. Mon père avait décidé que je vienne apprendre à écrire le braille pour pouvoir avoir le CEP.
Si Marcel Odile est admise au lycée, c'est l'équipe du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun qui va assurer la transcription de ses cours. La formation en braille attire également ici d'autres jeunes aveugles décidés à braver leur handicap. Dans la cour de l'école ce jour, la jeune Biloa.
Je ne suis pas née aveugle. Il est bel et bien vrai qu'étant encore petite, j'avais les problèmes de yeux. Avec le temps, la maladie a envahi mes yeux. Bon, moi, je suis là pour apprendre le braille et rentrer à l'école l'année prochaine.
Au-delà de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles et personnes à besoins spéciaux, le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun nourrit aussi l'ambition de faire fabriquer la toute première canne blanche « Made in Cameroun ». Le projet est avancé, affirme Coco Bertin. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, l'attaque de New York n'a pas manqué de diviser la classe politique. Dimanche, le conducteur d'une camionnette a foncé sur une piste cyclable très fréquentée, tuant au moins 8 personnes. Donald Trump, qui attribue le terrorisme à l'immigration, propose la suppression de la loterie pour les cartes vertes. Il a appelé à condamner l'assaillant à mort. Un discours de nature à satisfaire son électorat, mais qui lui vaut les critiques de ses adversaires démocrates. Morgan Guerrier a rejoint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington.
Trump, naturellement, a déjà pensé d'accuser le système d'immigration des États-Unis comme la cause de l'attentat. Le chauffeur du camion avait le titre de séjour permanent, la fameuse green card, obtenu par un programme de loterie qui permet chaque année à 50 000 personnes d'obtenir des visas. Et le président a déjà réclamé au lendemain de l'attaque la fin de ce système. Il a accusé les démocrates d'être ceux qui ont introduit ce programme. Il a oublié que le programme était soutenu et firmé par un président républicain, George Bush père. On voit une autre fois que le président utilise des informations mais qui ne sont pas correctes. Et ça a été reconnu même par les démocrates qu'il n'est pas le meilleur système dans ce moment, que c'est important peut-être de parler plus du système de mérite. Trump essaie de présenter cette réforme comme son idée, mais ce n'est pas ça.
Pour les partisans de Trump, le fait que l'assaillant vienne d'Ouzbékistan, ce ne serait pas la confirmation qu'il faut continuer le Muslim ban, empêcher les musulmans de certains pays d'entrer sur le sol américain.
Naturellement, il va à fortifier cette perception négative de musulmans. Mais ironiquement, l'Ouzbékistan ne sont pas dans la liste des pays que Trump a identifiés comme des pays dangereux pour les États-Unis. Il n'est pas quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur. Cette personne a été ici plusieurs années déjà. Cette idée que le terrorisme islamique arrive ici de l'extérieur n'est pas correcte.
L'attaque de New York, ça a été aussi l'occasion pour les démocrates de critiquer le président.
Particulièrement parce qu'il utilise son habituelle et controverse liberté de parole. Il semble très perturbé par la tournure que prend l'enquête sur l'affaire dite de collusion avec la Russie. Il cherche de changer l'attention, le fait qu'il a demandé la peine de mort de cette personne. L'avocat de défense peut dire que le président a eu de l'influence sur le jury.
Voilà, c'était Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University à Washington. Et voilà cet élément qui met fin à cette édition mise en onde par Michel Joseph à la console Justin Twite. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en contact sur Facebook et également sur notre page voafrique.com. Au revoir.